Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale consacrée cette semaine aux Journées internationales et mondiales de l'ONU. Bonne écoute.
Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'ai associé
la Journée mondiale du lavage des mains.
À l'ONU, chaque jour est une journée, ou presque. C'est-à-dire qu'une grande partie des jours du calendrier a été consacrée par l'Assemblée générale à une thématique particulière sous forme de journée mondiale ou internationale. L'objectif étant d'attirer l'attention de tous et d'organiser des activités autour d'une question particulière. Ces journées varient autant que les préoccupations de l'organisation et des pays du monde. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de trois des journées célébrées chaque année au mois de mars. On commence donc avec le 20 mars, la Journée internationale du bonheur, célébrée pour la toute première fois cette année. Cette journée a pris forme suite à l'initiative en 2012 du Bhoutan. Elle vise à ce que le bonheur et le bien-être soient reconnus non seulement comme des aspirations universelles, mais qu'ils soient pris en compte dans les objectifs politiques. De nombreux événements ont eu lieu à l'occasion de cette première édition de la journée, dont le lancement du livre audio « Les joyaux du bonheur » de Sri Chinmoy avec un concert de Philip Glass au siège de l'ONU à New York. Événement au cours duquel j'ai pu rencontrer Bhikshuni Weisbrot qui travaille au PNUD.
Nous nous basons généralement sur le produit intérieur brut, car c'est quelque chose de mesurable, alors que le bonheur est un peu plus complexe. Mais il y a un certain nombre de questionnaires qui demandent tout simplement aux gens comment ils vont. Et de nombreux pays ont adopté ce type de questionnaire qui a été initié par le Bhoutan au sein de son propre pays et qu'il a appelé l'indice du bonheur national brut. Il obtient des statistiques cohérentes. Maintenant, la question est comment intégrer ces résultats dans des programmes qui favorisent la gouvernance, dans des programmes du gouvernement actuel. Comment prendre ces indicateurs et les intégrer dans l'élaboration des politiques. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le Bhoutan n'est certainement pas dans la promotion de leurs propres questions, car certaines de ces questions les concernent, et d'autres nous concernent tous, comme les questions de communauté, de revenus, d'éducation, etc. Mais il y a des questions qui sont très spécifiques à leur culture, des questions qui s'occupent de leur approche à la spiritualité. Et je suppose que beaucoup de pays qui sont intéressés adoptent ce point de vue comme un modèle, puis incorporent les choses qui sont spécifiques à leur pays. Si au moins ils identifient certains domaines où les gens sont profondément malheureux, où ils souffrent, ces politiques peuvent affecter et soulager la souffrance. C'est donc un point de départ.
Pour Samahita Bender, aussi présente lors du lancement, la clé du bonheur part de l'intérieur de chacun.
La journée du bonheur, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et aussi que l'ONU ait adopté cette journée ou cette année comme l'année du bonheur. Parce que c'est pour montrer aux gens que ce n'est pas seulement disons, le côté matériel qui est important dans la vie, mais le côté disons, intérieur, le bonheur, la félicité, les choses des valeurs intérieures. Et ça, c'est très important.
Alors justement, comment est-ce que l'on fait pour quantifier le bonheur? Est-ce que ce n'est pas une notion très subjective et quelque part philosophique, peu quantifiable?
Dans un sens, c'est vrai, mais je crois que souvent, les gens qui parlent de bonheur, c'est par exemple, quand on achète quelque chose de matériel, disons une voiture, bon, on se sent heureux, mais ce n'est pas durable, disons. Mais le bonheur, pour moi, ça s'associe un peu à la paix intérieure, à l'équilibre intérieur et de voir que, en fait, d'approcher tout avec le cœur plus qu'avec le mental, c'est quelque chose de très important parce que dans notre société, c'est le mental qui a pris le dessus, plus ou moins, et le côté matériel aussi. Et je crois que c'est important de redécouvrir quelque chose de plus profond et plus durable.
Quatre que donc. L'eau, source de vie et parfois source de conflit. C'est pourquoi l'édition 2013 de la Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque 22 mars depuis 20 ans, a été placée sous le thème de la coopération dans le domaine de l'eau. Marguerite Chaise-Martin, juriste au sein du Programme hydrologique international de l'UNESCO, revient sur le lien entre l'eau et la paix.
Quand on fait référence à la coopération dans le domaine de l'eau, on fait référence à l'implication de tous les acteurs du secteur et à une action conjointe et coordonnée de tous ces acteurs pour parvenir à un juste équilibre entre les différents besoins et priorités qu'implique une gestion rationnelle de l'eau. En fait, cette coopération autour de la ressource en eau est capitale pour garantir en fait une utilisation durable et équitable de la ressource, mais aussi pour permettre d'établir et de maintenir entre les peuples des relations pacifiques.
Alors justement, quels sont les bénéfices de ce genre de coopération dans le domaine de l'eau ?
On a dégagé en fait pour cette campagne internationale et cette journée mondiale de l'eau, 4 messages clés qui font référence aux différents besoins justement d'une coopération dans le domaine de l'eau. Ces 4 messages sont le fait que la coopération dans le domaine de l'eau construit la paix. L'accès à l'eau peut être une source de conflit, mais c'est également un facteur de paix. Un autre bénéfice, c'est que la coopération dans le domaine de l'eau est également essentielle au développement social et au développement économique. Et elle permet de lutter contre la pauvreté et de garantir une justice sociale et de contribuer à l'égalité des sexes. Un autre bénéfice encore, c'est que la coopération dans le domaine de l'eau crée des bénéfices économiques. Toutes les activités économiques sont dépendantes de l'eau. En fait, cette coopération permet justement une utilisation qui est plus efficace et plus durable des ressources en eau sur lesquelles ces activités économiques sont dépendantes. Enfin, la coopération dans le domaine de l'eau est déterminante en fait pour préserver les ressources en eau et protéger l'environnement. Donc elle a des bénéfices au niveau de l'environnement tout entier, parce que la qualité et la quantité des ressources en eau dont nous disposons ont un impact très fort et sont extrêmement liées à la santé de nos écosystèmes.
Vous avez parlé en fait d'un des bénéfices en tant que la coopération autour de l'eau construit la paix et que la coopération dans le domaine de l'eau est liée à la paix. Comment est-ce que ça se manifeste au niveau international, régional et local ?
Alors en fait, la coopération dans le domaine de l'eau est un facteur de paix et cela à tous les niveaux. Et contrairement aux idées reçues justement, les exemples que l'on voit dans le monde à tous les niveaux de coopération sont plus nombreux que les exemples de conflits autour des ressources en eau. Pour vous donner en fait quelques chiffres justement sur le fait que la coopération dans le domaine de l'eau est un facteur de paix. L'Université d'État d'Oregon a mis à jour en 2008 son étude sur le nombre de bassins transfrontaliers dans le monde. Nous avons aujourd'hui 276 bassins transfrontaliers à travers le monde et qu'ils couvrent plus de 45% de la surface terrestre du globe. Et 148 États ont une partie de leur territoire qui est incluse dans un ou plusieurs bassins. Dans ces 148 pays, vous en avez 39 qui ont plus de 90% de leur territoire inclus dans un ou plusieurs bassins transfrontaliers et 21 dont le territoire est situé dans leur totalité dans un bassin transfrontalier. Donc on voit vraiment l'importance en fait de cette coopération au niveau international autour de la ressource en eau.
Donc ça c'est pour le côté plus international puisqu'on parle de bassins transfrontaliers, mais sur le plan régional et local, comment est-ce que de coopérer autour d'une ressource d'eau peut amener des rapports plus pacifique.
On peut prendre différents exemples très concrets. Le fait de fabriquer par exemple une pompe à eau dans un village, c'est un exemple de coopération locale. Ça permettra à tous de bénéficier de cette ressource en eau. Également le fait de créer par exemple des institutions ou des cadres juridiques au niveau régional qui permettent justement de mettre en place des programmes de protection, de gestion durable des ressources en eau, permettent de garantir justement une coopération de tous pour la préservation des ressources en eau.
La journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, célébrée chaque 25 mars depuis 2007 pour rendre hommage aux 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été victimes de cette dramatique traite. Elle vise également à promouvoir l'enseignement aux générations futures de l'histoire des conséquences de l'esclavage et de la traite des esclaves. Cette année, Elle a été placée sous le thème « Libre à jamais » en célébration de l'émancipation et a donné lieu à maints événements, concerts, échanges d'idées, propositions de projets pédagogiques culturels, à l'instar de celui que sont venus présenter Dieudonné Boutrin et Daniel Proust du bateau pédagogique.
On a voulu justement créer la pièce symbole de l'histoire qui était les bateaux qui transportaient des hommes et qui mettaient des hommes dans des conditions de façon pour rendre l'histoire plus abordable, plus compréhensible, plus palpable. C'est-à-dire si tu ne peux pas aller à l'histoire, l'histoire viendra à toi.
Et ce bateau, il est en construction, il risque de l'être, il cherche un financement, c'en est où ?
Oui, le bateau, il n'est pas en construction, nous cherchons des financements. Donc avant de construire un tel projet, il faut le faire voyager dans les consciences. Et notre objectif, c'est connaître la souffrance de hier pour combattre celle d'aujourd'hui. Parce que l'esclavage contemporain, il est à notre porte, il n'a pas de frontières, il n'a pas de couleurs, il est partout. Et on a trouvé comme symbole ce livre d'histoire, qui sera un livre d'histoire ouvert, une plateforme culturelle itinérante qui permettra de dynamiser les différents mémoriaux dans le monde.
Et ce bateau, il voyagerait en fait ?
Oui, il fera la traversée triangulaire, comme on dit à l'envers, symbolique. Justement, il rapportera à l'Afrique d'autres valeurs, c'est-à-dire la richesse qui est née de l'histoire. Il faut trouver le moyen de faire connaître les jeunes générations l'histoire de la traite négrière qui a été occultée pendant des siècles. Et aujourd'hui, il faut dire plus jamais ça. La plupart des temps, on a tendance à oublier encore, il y a des hommes qui est dans des conditions horribles aujourd'hui, des enfants surtout, et notre objectif c'est de lutter contre ces formes d'esclavage contemporain.
Alors c'est aussi rattacher l'histoire de l'esclavage à l'esclavage contemporain.
Tout à fait, c'est de mieux connaître la souffrance de hier pour combattre celle d'aujourd'hui. Notre objectif justement c'est de créer cette plateforme culturelle, ce livre d'histoire ouvert pour que les gens puissent mieux prendre conscience de la souffrance de hier pour combattre celle d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de liens ou de parallèles à tirer entre l'esclavage triangulaire et l'esclavage d'aujourd'hui ?
Je dirais que c'est la même souffrance, mais ce n'est pas la même histoire. Et aujourd'hui, c'est la même souffrance, il est sous une autre forme. Comme je dis, il n'a pas de couleur. Il faut trouver l'outil capable de montrer cette souffrance. Et je dirais, lorsqu'on parle plateforme culturelle itinérante, c'est un mémoire efficace et solidaire que nous voulons créer.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que la traite négrière était avant tout un marché économique. Donc l'histoire nous enseigne que l'économie a poussé les hommes à fonctionner dans des conditions qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc cette histoire-là nous invite, et le bateau pédagogique nous invite à réfléchir à ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on voit bien aussi que l'économie peut mettre un certain nombre d'hommes et de femmes et d'enfants en situation d'esclavage. Donc ça nous invite à réfléchir à aujourd'hui et à préparer demain. Est-ce que nous voulons reproduire sans cesse les mêmes schémas ? On pourrait se poser la question de savoir si c'est pas le cas actuellement.
C'est vrai ce que dit Daniel, souvent on le dit, parce que avant tout l'esclavage a été un problème économique. Et aujourd'hui, encore l'esclavage c'est un problème économique. Nous voulons être vigilants, faire de la prévention, sensibiliser les jeunes générations, 6 générations futures, les 10 générations futures, plus jamais ça. C'est pourquoi nous sommes à l'ONU justement pour arriver avec toutes les synergies qu'il y a autour pour faire dire plus jamais ça.
Quelles vont être les composantes dans ce bateau ?
Nous voyons ce bateau-là plutôt comme une plateforme culturelle itinérante. C'est-à-dire que ce bateau navigue déjà dans les consciences depuis plusieurs années. Nous avons des contacts ici aux États-Unis, dans les Caraïbes où nous avons une alliance, en Afrique, au Bénin. Et en amont, le bateau navigue déjà. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer un certain nombre de liens culturels, économiques, sociaux. Et le bateau ensuite va relier ces points entre eux. Et chacun, chaque point international, chaque point du monde va pouvoir s'enrichir de la vision de l'autre. Donc le bateau intervient comme un lien pour dire, voilà, nous avons vécu, nous vivons tous la même chose aujourd'hui, comment pouvons-nous nous enrichir aujourd'hui et demain de nos richesses mutuelles ? Voilà. Donc voilà l'objectif un peu symbolique de ce bateau pédagogique.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée aux Journées mondiales et internationales de l'ONU. Escale vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westergaard. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.